Le sanctuaire de Turin, Paul Vignon. L'article critique que M. Louis de Merville a consacré au sanctuaire dans le correspondant du 10 mai est riche en phrases interrogatives. On y trouvera, en cherchant bien, quelques affirmations relatives à des points sur lesquels l'auteur de l'article et nous-mêmes sommes pleinement d'accord. On y rencontrera aussi, et cela plus aisément peut-être, des passages où le doute passe à la réfutation directe. Nous répondrons à M. de Merville. Auparavant, posons à notre tour une question. Notre interlocuteur s'est-il bien pénétré de toute la série des documents techniques qui se rapportent au sanctuaire et qu'il est nécessaire de scruter en naturaliste si l'on veut en dégager la signification? Le temps lui manquait peut-être. À la Sorbonne, nous aurions été heureux de faciliter sa tâche tout en faisant notre profit de ses bienveillantes observations. Quant à la question religieuse, d'aucuns estimeront que l'auteur de l'article l'aborde un peu à la légère. Nous n'aurons garde de l'imiter. Les clichés de M. Pire, clichés dont nous possédons des répliques sur verre, les épreuves sur papier que l'on peut tirer de ces clichés, les héliogravures sans retouche, faites elles aussi par application directe, montrent nettement un corps qui est d'une anatomie élégante et impeccable. Nulle ignorance, point d'autre naïveté que celle qui découle d'une reproduction automatique. Comme cause immédiate, un phénomène physico-chimique qu'aucun fraudeur ancien n'a pu provoquer ou guider. On n'imbibe pas un cadavre par le dehors. Recouvrirait-on artificiellement un corps avec une solution ammoniacale que le liquide tacherait grossièrement le drap? L'expérience de la main de plâtre gantée a imité, aussi fidèlement que possible, les conditions naturelles que nous n'avons pas encore trouvées réalisées. Nous avons expliqué assez clairement que nulle rencontre fortuite n'aurait mis l'homme de Lirée ou de Byzance sur la voie d'une opération chimique aussi complexe. Bien mieux, plusieurs, qui ne s'accordent point en cela avec M. de Merville, estiment que nous-mêmes sommes encore impuissants à définir les conditions précises du phénomène qui a donné naissance aux empreintes visibles sur le suaire. Mais laissons ici l'explication pour nous attacher aux faits. Nous maintenons, et notre interlocuteur n'y contredit point, que les images de Turin ne sont pas l'œuvre d'un peintre. Nous maintenons que ces images se sont réalisées spontanément par le fait de certains échanges chimiques effectués entre un corps humain et un linceul. Telle est aussi l'opinion de M. de Merville. Alors, comment peut-il y découvrir des signes qui trahissent l'ignorance de celui, quel qu'il soit, qui aurait enveloppé ce cadavre dans cette pièce de toile? Les images décèlent aujourd'hui la manière dont, jadis, le linceul recouvrait le cadavre. Elles sont donc, nécessairement, anatomiques et naturelles. Voici le langage qu'elles nous tiennent. Le corps était couché sur une des moitiés d'un drap étendu sur le sol. L'empreinte s'est faite conformément à la loi des distances. Par suite, les parties latérales du corps ne pouvaient pas donner d'image sur cette moitié inférieure du linceul. Toutefois, et précisément, eu égard aux exigences impérieuses de la loi physique que nous avons dégagée, la silhouette dorsale n'est pas découpée à l'emporte-pièce comme l'a cru M. de Merville. Les contours sont dégradés. Partout, les images brunes se perdent insensiblement dans le fond jaunâtre de la toile. Les contacts, ainsi que nous l'avons fait voir au moyen d'un profil, ont déterminé une impression forte. Certaines parties du corps, telles que les reins et les tendons d'Achille, ont exercé une action faible ou nulle. Le reste de l'étoffe enveloppant le corps, synoptique, en passant par-dessus la tête, Saint-Jean, super caput, a recouvert très naturellement la partie antérieure du cadavre. Il s'agissait d'un mort incomplètement enseveli et qu'on déposait, synoptique, d'une façon toute provisoire sur le sol de la grotte funéraire. Ce caveau, où les disciples pénétrèrent au matin de notre jour de Pâques, n'était nullement, M. de Merville voudra bien n'en pas douter, l'équivalent d'un cercueil où le linceul aurait, nécessairement, enveloppé le corps sur les côtés. La toile s'est étalée latéralement sur le sol de la grotte, ainsi que le fait une nappe jetée par-dessus les objets qui se trouvent sur une table. Tantôt, elle s'est éloignée rapidement de certaines parties latérales du corps, les cuisses, et n'a subi de leur part aucune action chimique appréciable. Tantôt l'étoffe s'est appliquée, au contraire, sur ses parties latérales, quand elle s'offrait d'elle-même à son contact, les mollets, tantôt même elle a enveloppé le corps de tout près, les chevilles. Dans ces deux derniers cas, l'image face s'est trouvée très élargie, sans cesser de se dégrader insensiblement sur son pourtour. L'absence de certaines régions latérales n'est point la seule que l'on constate sur l'image antérieure. Parfois la toile, que soutenaient des saillies externes symétriques, a formé le pont au-dessus des régions moyennes déprimées. C'est ainsi que la partie interne des cuisses n'est pas reproduite ou ne l'est que d'une manière à peine visible. C'est ainsi que les parties fuyantes de la région gastrique n'ont pas fait leur image parce que les bras en écartaient l'étoffe. Les épaules, elles aussi, manquent sur l'image antérieure et c'est là un caractère bien remarquable. Après avoir recouvert la face, le linceul est resté plan et tendu jusqu'à ce qu'il vienne s'appliquer mollement sur la crête des pectoraux. Pourquoi cela ? L'absence des épaules concorde avec celle des parties latérales du visage. Des supports, des paquets de linge, maintenaient la tête sur les côtés en attendant l'ensevelissement définitif. M. de Meurville trouve-t-il là l'indice de quelque naïveté ou de quelque ignorance ? Si, la tête n'étant pas enveloppée, les épaules avaient suivi néanmoins le contact du drap, oui, le peintre, et non plus seulement le truqueur, se fût accusé lui-même. Il se fût révélé tout aussi sûrement si, en l'absence des épaules, il avait rendu visibles les parties fuyantes du visage. Il aurait encore explicitement signé son œuvre s'il nous avait montré, à la fois, les épaules et les régions latérales de la tête. Le linceul, en effet, n'aurait pas pu s'enfoncer de la sorte autour de la tête sans déterminer sur l'image des déformations considérables. Telles, au contraire, que les images se révèlent à nous, elles portent la marque évidente d'un enveloppement logique et parfaitement réel. M. de Meurville demande des accidents, des bavures. Qu'il regarde mieux. Partout, il verra des régions incomplètement ou inégalement reproduites. La moitié seulement du ventre a laissé son empreinte. Il n'y a presque qu'une cuisse et qu'un genou. Tantôt, le dégradé est court. C'est l'indice d'une action forte au contact et qui s'affaiblit rapidement, l'image par vapeur tournant à la tache immédiate. Tantôt, l'image s'étale beaucoup. C'est que les vapeurs actives, émises en abondance, se sont réparties autour de chaque point sur des sphères à grand rayon. Ce ne sont point là des rêveries. Si M. de Meurville le désire, nous lui ferons entendre, pièces en main, le langage si singulier de ses empreintes, langage géométrique, esthétique et moral, tout à la fois. Sur le visage, M. de Meurville lit la majesté de la mort. C'est bien, qu'il ajoute la majesté d'un héros, d'un prophète, puissant et doux. Ici encore, cependant, qu'il regarde mieux. Et d'abord, qu'il cesse de s'étonner si les cheveux et la barbe ont agi chimiquement comme la peau elle-même. Si nous avons dit vrai en attribuant à la sueur de l'agonie le mécanisme de ces images, qui ne voit que la barbe, en désordre et non pas coquettement repliée, les sourcils, les cheveux, étaient nécessairement baignés, eux aussi, de cette sueur de fièvre et de souffrance. Mais les yeux, dites-vous ? Les yeux sont fermés, la paupière gauche à peine légèrement soulevée. Dans le Gaulois du dimanche du 29 mars, oui, les yeux sont ouverts et les prunelles sont figurées. Mais c'est un dessin, un mauvais dessin entièrement refait, où tous les traits de crayon sont visibles, que le journal a donné, par inadvertance, pour une photographie. L'auteur de l'article, que cette étrange image illustrait, partisan de la thèse du peintre, a regretté, m'a-t-il dit, le fait de cette reproduction. Je l'ai cru, je le crois encore. Il aurait mieux fait, cependant, de protester et d'avertir ses lecteurs. On peut inspecter, maintenant, notre héliogravure agrandie. On n'y trouvera ni défaillance de l'objectif, ni marque qui décèle l'initiative d'un faiseur de retouches. Passons aux évangiles. Non, les disciples n'ont pas travaillé toute la nuit à embaumer et à emmailloter le corps du Christ en se cachant du Sanhédrin comme des voleurs. L'expression de saint Luc, que M. de Meurville a traduite à la lettre, est une expression métaphorique. Les hébraïssants le savent. Voyez Lightfoot. Le mot « illus sacebat » désigne le début du jour légal. Le sabbat commençait vers 6h30 du soir. Auparavant, les disciples, en grande hâte, ont déposé le corps dans le sépulcre en l'enveloppant seulement d'un linceul. La preuve que l'ensevelissement était inachevé, l'onction non faite, par conséquent, les bandelettes non enroulées, c'est que les saintes femmes revenaient, le lendemain du sabbat, pour faire l'onction, Saint Marc et Saint Luc. Et cependant, Saint Jean nous le dit à son tour, dès le vendredi soir, on employa des aromates. On enferma, on enveloppa le cadavre dans des linges, et les linges étaient, lisons-nous, unis aux aromates. L'inteis cum aromatibus en latin. Au matin de Pâques, lorsqu'on trouva le tombeau vide, il restait des menus linges posés à terre, l'intea mina. Pour désigner le grand linceul des synoptiques, il n'y a plus dans le texte de Saint Jean que le mot sudarium. Effectivement, ce suaire représente une grande étoffe, puisqu'il était séparément enroulé sur lui-même vers un seul lieu. Il n'enveloppait d'ailleurs pas la tête sur les côtés, puisqu'il était super caput, c'est-à-dire sur ou par-dessus la tête, mais non point autour de celle-ci. Enfin, le cadavre était nu, audace qu'un fraudeur, travaillant pour des moines, n'aurait pas eu, mais qui n'était pas pour gêner les soldats romains. Les coups de fouet avaient encore accentué cette nudité. Toutes les autres blessures désignent le Christ. À elles seules, avons-nous dit, elles suffiraient presque à renverser la thèse du fraudeur, qui n'aurait ni su ni voulu les retracer ainsi. Bref, selon nous, le Saint-Suaire, document unique, est authentique en dehors de l'histoire, et s'il le faut, malgré l'histoire. Ce n'est pas, comme M. de Merville me le fait dire, le linceul de Byzance qui vient cautionner l'étoffe de Turin. C'est le linceul de Liré-Chambéry-Turin qui authentifie celui que les empereurs grecs conservaient dans leur chapelle de Sainte-Marie-des-Blachernes. Paul Vignon.